Huile de palme et droit humain avec Mathieu Arnd.
Bonjour, donc je voudrais commencer par remercier le salon Prime Vert d'accueillir Amnesty International et remercier aussi les groupes locaux de la région lyonnaise qui ont été l'articulation entre le salon et Amnesty au niveau national pour m'inviter ici et vous parler donc de huile de palme et droits humains. C'est un petit changement de focal par rapport à l'axe central des thématiques du salon. L'huile de palme, souvent vue comme grand ennemi de l'environnement, c'est pas le sujet de ce que je vais raconter aujourd'hui. L'huile de palme aussi, souvent critiquée pour ses vertus ou ses manques de vertus alimentaires. C'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler d'un sujet un petit peu différent, qui concerne ce qui se passe dans les plantations d'huile de palme et sur la chaîne de production d'huile de palme par rapport aux droits humains. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur des travaux effectués par Amnesty. Je vais commencer par expliquer un petit peu pourquoi Amnesty s'intéresse à l'huile de palme. C'est un sujet un petit peu peut-être original par rapport à ce que vous imaginez de cette organisation. Et donc, pour ça, il faut que je remonte un petit peu à l'histoire de notre mouvement. Parce qu'Amnesty est quand même plutôt connu au départ pour son action en faveur des droits des prisonniers politiques. Donc, liberté de conscience, liberté d'expression, emprisonnement arbitraire, etc. Mais ça, c'était il y a longtemps déjà, hein, parce que le mouvement a commencé au début des années 60. Et petit à petit, la typologie des droits humains qui ont été couverts par l'organisation s'est étendue jusqu'à ce que nous, dans notre jargon, on appelle les DESC, les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont reconnus dans les déclarations fondamentales des droits humains, mais qui n'étaient pas dans le champ de l'organisation Amnesty International, simplement parce qu'on a considéré longtemps que c'était trop énorme à aborder. Mais enfin, en 2001, lorsque l'organisation s'est sentie un petit peu plus solide, elle a décidé solennellement de prendre les DESC sous son aile et de commencer à travailler dessus. Parallèlement à ça, un autre glissement s'est opéré, ou élargissement si vous voulez, entre un regard qui se portait uniquement sur la responsabilité des États et des acteurs étatiques et qui a commencé à regarder d'autres sujets comme, je me souviens du débat qu'est-ce qu'on dit sur les groupes paramilitaires, notamment en Colombie. Donc, alors oui, il fallait aussi parler des exactions commises par les groupes paramilitaires. Mais petit à petit, on a aussi commencé à s'intéresser à la responsabilité des entreprises. Et pour utiliser encore un terme de notre jargon, ce qu'on appelle les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, disons les intervenants, les parties prenantes dans les milieux économiques. Alors tout ça, c'est un vaste programme, vous me direz. Et pour travailler là-dessus, en fait, on n'est pas heureusement tout seul et on n'opère pas dans le vide. On s'appuie sur des textes internationaux élaborés par exemple à l'ONU. En 2011, l'ONU a sorti un document fondamental qui s'appelle « Les principes directeurs sur les entreprises et les droits humains ». Et ce texte reconnaissait trois responsabilités aux acteurs économiques fondamentales pour classer un petit peu les choses. La responsabilité de protéger les droits humains, c'est-à-dire d'essayer de prévenir les violations aux droits humains lorsqu'on a des leviers pour le faire en tant qu'acteur économique. La responsabilité de les respecter soi-même en tant qu'acteur. Et troisièmement, la responsabilité de réparer, c'est-à-dire s'il y a des victimes de violation des droits humains, leur donner la possibilité d'obtenir réparation pour ce qu'ils ont subi. À ces principes directeurs de 2011 élaborés dans le cadre de l'ONU, sont venus se surajouter un certain nombre d'initiatives internationales, notamment sous l'égide de l'OCDE, le club des pays riches, si vous voulez, qui a mis au point un certain nombre de principes d'orientation pour essayer d'expliquer au monde économique, aux entreprises, exactement ce que ça voulait dire de traduire ces grands principes en pratique dans leurs opérations. Alors évidemment, ça s'adresse quand même beaucoup aux multinationales, tout ça, parce que les entreprises qui sont dans leur propre pays, soumises à leur législation, théoriquement en tout cas, les États veillent au respect des droits humains à travers le système législatif, etc., etc. Le problème avec les multinationales, c'est que parfois elles échappent un petit peu à ce contrôle parce que j'ai créé une filiale là, elle fait ceci, mais là-bas elle vend ensuite là-bas, et c'est un empilement de responsabilités qui devient absolument impossible de suivre lorsqu'on essaye d'aller dans des cours de justice. Le principe fondamental dans cette histoire-là, c'est que pour une entreprise qui agit comme ça avec une longue chaîne d'approvisionnement, c'est toute la chaîne qui est importante. C'est-à-dire qu'elle a la responsabilité non pas seulement de ses actions, mais aussi de l'action sur toute sa chaîne d'approvisionnement en amont. C'est énorme si on y réfléchit. Hein. L'exemple de l'huile de palme va bien illustrer les problèmes que ça pose en pratique. Je vais juste vous citer quelques dossiers emblématiques sur lesquels Amnesty a travaillé pour vous expliquer un peu le cheminement et comment on a abouti à ce sujet de l'huile de palme. Au départ, c'est des sujets comme le delta du Niger et la pollution pétrolière du delta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont un peu anciens, la question des ogonis, Ken Saro Wiwa, le meurtre des leaders sur ce mouvement qui était lié bien sûr à de la pollution, hein, donc très lié aux sujets environnementaux. C'était aussi autre dossier emblématique du secteur pétrolier, le pipeline Tchad-Cameroun, deux pays dont les track records en matière de droits humains n'étaient pas brillants et avec lesquels les entreprises pétrolières s'apprêtaient à signer des contrats gigantesques. C'est aussi toute la question des minerais du sang et tout ça finalement pour vous dire que on s'est d'abord concentré sur le secteur extractif, minerais, pétrole, etc. Parce que c'était évident comme domaine, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sujets à discuter. De là, il y a eu d'autres sujets qui sont venus, comme le cobalt, qui n'est pas vraiment ce qu'on appelle un minerai du sang. Ce n'est pas reconnu comme tel dans les textes, etc. Mais où il y a des problématiques tout à fait analogues. Un sujet aussi sur le Qatar. Vous avez peut-être entendu parler de la préparation de la Coupe du Monde au Qatar. Là, la question, c'était plutôt quelles sont les conditions de travail des travailleurs immigrés au Qatar. Tout un dossier passionnant également. Et l'huile de palme. C'est intéressant, l'huile de palme, parce que c'est à la fois une matière première et puis c'est le secteur agricole, quoi, hein. Donc on glisse de l'extractif à un sujet qui concerne aussi le secteur agricole et qui est donc un petit peu différent dans sa nature. Enfin, dernier dossier emblématique dont vous avez certainement entendu parler, c'est l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. C'était un atelier où travaillaient des gens dans le secteur du textile. Le bâtiment, malgré toutes les sonnettes d'alarme qui avaient été tirées par les principaux intéressés, s'est effondré avec tous les occupants, principalement des occupantes à l'intérieur. Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu un millier de morts, on ne sait pas exactement. Et là, ça a été une brutale prise de conscience pour beaucoup, beaucoup d'acteurs du secteur textile. Et pour beaucoup de consommateurs aussi, de dire attention, qu'est-ce qui se passe là dans cette chaîne d'approvisionnement ? Est-ce que c'est correct d'acheter des vêtements qui ont peut-être été fabriqués par des gens qui courent des risques insensés tous les jours en allant au travail ? Et c'est un dossier très important dans le contexte français pour Amnesty aussi, parce que ça a été l'étincelle qui a permis de commencer à travailler sur une loi qui a été adoptée en février, il y a maintenant un an, juste avant les élections présidentielles, qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, dont vous avez peut-être entendu parler, et peut-être pas, et c'est dommage, mais c'est une spécificité française dont on pourra peut-être parler dans le temps de questions. Je vais parler un tout petit peu moins d'une demi-heure de l'huile de palme. Je vais vous demander de garder vos questions en mémoire pour après. Il y a un bon temps d'échange. Par contre, je suis vraiment désolé. Je vais être obligé de quitter ici pour attraper la... Bon, donc, l'huile de palme. Amnesty International organise ses propres travaux de recherche de manière indépendante et, on l'espère, toujours impartiale, avec ses propres moyens qui sont des personnes basées à Londres. En fin 2016, ils ont donc publié un rapport sur l'huile de palme que vous pouvez trouver en ligne, dans son intégralité, en anglais, ou alors en résumé en français, sur le scandale de l'huile de palme. En fait, quelle a été la méthode ? La méthode, ça a été de sélectionner un acteur qui s'appelle Wilmar, W-I-L-M-A-R, qui est un des acteurs principaux de toute la chaîne de production et de commercialisation de l'huile de palme. C'est une entreprise qui est basée à Singapour et qui représente environ 40-45% du marché de l'huile de palme mondiale. Donc c'est vraiment un acteur super dominant sur toute la chaîne, parce qu'ils sont à la fois producteurs, mais propriétaires de plantations, etc. Ils sont propriétaires d'unités de transformation, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ils sont aussi transporteurs d'huile de palme à travers le monde. Et ils ont de très, très gros clients que tout le monde connaît, qui sont des clients qui fabriquent des produits de grande consommation, par exemple. On en reparlera. Alors, parce que l'huile de palme, donc, c'est un produit qu'on utilise dans l'industrie alimentaire. C'est connu. Il y a quelques exemples super connus. On l'utilise aussi, c'est moins connu, dans les produits de beauté. On l'utilise dans certains produits de nettoyage, produits d'entretien. Et on l'utilise massivement également dans les biocarburants. Il faut que je vous parle un tout petit peu du processus de production de l'huile de palme, parce que sinon la suite va être complètement incompréhensible. Et malheureusement, je n'ai pas d'illustration, parce que j'ai cru que ça ne serait pas possible. Mais je vais essayer de rendre ça très très clair. Au départ, c'est quoi ? C'est une plante qui s'appelle le palmier à huile, qui fabrique des grosses grappes de fruits rouges, des espèces de régimes de ces dattes, qui sont donc très très oléagineuses. Et alors ça pousse soit à l'état complètement diffus dans des forêts ou des choses comme ça, soit c'est là qu'il y a la grande masse de la production mondiale, dans des plantations plantées vraiment à cet effet de production. Premier producteur mondial, l'Indonésie. Deuxièmement, loin derrière mais quand même important, la Malaisie. Après, il y a d'autres pays, mais c'est nettement moins important, mais beaucoup en Afrique de l'Ouest quand même. D'ailleurs, l'Afrique de l'Ouest est la maison, l'origine de cette plante qui est originaire donc du golfe de Guinée. Chaque régime de fruits pèse de 10 à 25 kilos. Il faut aller les attraper avec des grandes perches munies de coupants ou même de ciseaux, des fois, qui pèsent une douzaine de kilos. Donc c'est un travail qui est quand même relativement pénible. Il faut aller attraper ça, ça tombe par terre, on ramasse, on met dans des brouettes. On traîne, on pousse les brouettes sur un terrain agricole qui est ce qu'il est, jusqu'à un endroit qui va être une unité d'extraction. L'unité d'extraction, c'est généralement quelque chose d'assez artisanal. On presse, on obtient un premier jus. Ce jus, lui, est transporté par camion jusqu'à des raffineries. Là, on entre dans un monde beaucoup plus industriel déjà. Et ensuite, ces raffineries envoient leurs produits, généralement par camion, à moins qu'ils aient la chance d'être juste au bord de la mer, vers des énormes navires qui sont spécialisés, qui transportent l'huile de palme et qui sillonnent le monde. Alors, ce qui se passe, vous le comprendrez tout de suite d'après la courte description que je vous ai donnée, c'est que, en fait, on mélange l'huile de palme de plusieurs provenances sur toute cette chaîne. Et qu'à la fin, quand vous avez un gros bateau d'huile de palme qui arrive au port de Rotterdam, c'est pas évident de savoir de quelle plantation elle vient. Donc on a un problème très important de traçabilité. Pour faire pousser tout ça, il faut soigner et entretenir les palmiers. Dans les plantations, souvent, ça veut dire l'utilisation de produits phytosanitaires, parfois à très très grande échelle. C'est un travail qui est pénible physiquement. C'est un contexte aussi historique et politique, il faut le dire, où l'héritage du système des plantations coloniales pèse quand même assez lourd. J'ai eu l'occasion de lire des textes qui décrivaient le système de plantation en Indonésie. Je ne sais pas si vous savez que Max Avelar, très célèbre pour d'autres raisons, est un héros de romans néerlandais de la fin du 19e siècle qui s'était élevé contre l'injustice du système des plantations en Indonésie, déjà. Donc il y a un héritage important de ce point de vue-là. Et puis, il y a une autre chose, c'est la dispersion des lieux de production. C'est-à-dire que vous avez une force de travail qui vit en monde rural et qui vit en monde rural tout à fait dispersé sur des surfaces absolument gigantesques et souvent coupées des grands circuits urbains, des grands circuits d'information mondiaux. Alors Villemar, comme je le disais tout à l'heure, possède en propre des plantations qui sont essentiellement situées, pour ce qui est de l'Indonésie, à Sumatra, l'île de Sumatra, et sur l'île de Kalimantan, qui est en fait plus communément connue sous le nom de Bornéo. Et Villemar possède également des unités de transformation, aussi bien pour l'extraction que pour le raffinement, mais dans le même temps, elle sous-traite. Villemar sous-traite à d'autres plantations qui peuvent avoir ou ne pas avoir des unités d'extraction propres. Il sous-traite à d'autres raffineurs qui peuvent avoir ou ne pas avoir des plantations. Bref, si vous faites la liste de tous les fournisseurs de Villemar, vous obtenez un inventaire absolument gigantesque qui est assez difficile à décrypter, certainement avec des prises de participation des uns et des autres dans tous les sens, qui rend le système un petit peu compliqué. De l'autre côté, Villemar vend son huile de palme, comme je le disais, à des grandes marques de produits de consommation courante. Pour en citer quelques-unes, parce que c'est toujours agréable d'épingler comme ça les gens, Colgate Palmolive, Kellogg's, Nestlé, 3 points de suspension. D'autres acteurs parfois qui sont moins connus, qui vont par exemple être des sous-traitants de marques plus connues comme Reckitt Benckiser qui fait des produits à partir de l'huile de palme et qui les revend aux fabricants de produits alimentaires ou de produits de beauté. Amnesty ne s'est pas occupé de toute la partie biocarburant. C'est un choix stratégique dans la façon d'organiser les campagnes, etc. C'est dommage parce que, d'un côté, c'est dommage parce que ça représente probablement à peu près la moitié de la consommation de l'huile de palme aujourd'hui, quand même, hein, mondialement. D'ailleurs, la consommation d'huile de palme, malgré tous les doutes qu'on a pu exprimer, notamment en Europe là-dessus, est en pleine explosion mondialement. C'est du plus 15 à 20% par an quand même. Notamment avec le marché asiatique qui en a, historiquement l'utilisait énormément et qui continue à vouloir l'utiliser beaucoup. Donc Amnesty a fait une recherche à la fois documentaire pour essayer de comprendre toute cette chaîne et comment on pouvait dessiner le chemin entre le régime de fruits et la barre de savon ou la barre de chocolat ou je ne sais quoi du supermarché, mais aussi à réaliser un travail de terrain. En allant sur place, en allant rencontrer des gens sur les plantations, en interviewant des travailleurs, en interviewant des managers, etc., en interpellant les sièges sociaux des entreprises, en des échanges de courriers, etc. Alors, quels sont les constats ? Qu'est-ce qu'on a pu voir avec cette enquête ? Eh bien, c'est une image de violation grave et systématique des droits humains sur les plantations d'huile de palme en Indonésie. En Indonésie, hein, on n'a pas non plus trop, pour des raisons pratiques, bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des violations graves ? Alors, systématique, ça veut dire que vraiment c'est au-delà de, comment dire, de la mauvaise pratique d'un acteur ou d'un autre. C'est quelque chose d'étendu, d'endémique sur l'ensemble des plantations. Bien sûr, il y a des variations, il y a des endroits où ça se passe un petit peu mieux, etc. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ce qu'on appelle du travail forcé. Le travail forcé, c'est ce qui se passe quand, au lieu d'entrer dans un contrat de travail où vous allez librement pour gagner un petit peu d'argent, on vous explique que si vous ne travaillez pas, vous allez être puni. Vous allez avoir une sanction d'une manière ou d'une autre. Donc, le travail forcé, c'est assez compliqué cette qualification de travail forcé. C'est une analyse que je vous invite à lire en grand détail dans le rapport si ça vous intéresse. Mais en fait, ça vient d'un système de rémunération assez complexe qui est un système à la pièce. Alors bon, on est à Lyon, hein, c'est comme les canuts à l'époque. C'est de la rémunération au rendement, mais suivant un système, en soi, c'est pas terrible, hein, c'est pas une violation des droits humains de rémunérer les gens au rendement. Mais lorsque les niveaux de rémunération sont tels que après une journée de 12-14 heures de travail pénible, vous n'arrivez pas à gagner le salaire minimum légal du pays où vous êtes, en l'occurrence l'Indonésie, là ça devient beaucoup plus problématique. Lorsqu'en plus de ça on vous prive de revenus si jamais vous n'atteignez pas le fameux objectif quotidien et qu'on vous dit écoutez, on vous paiera demain si vous arrivez à atteindre l'objectif, et que de jour en jour finalement vous n'êtes pas rémunéré parce que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, à tel point que presque vous auriez une dette virtuelle vis-à-vis de votre employeur au jour le jour, là ça devient du travail forcé. Deuxièmement, discrimination par rapport au genre. Donc, discrimination homme-femme. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Les femmes n'ont pas accès à un certain nombre de travaux pénibles. Bon. En soi, tant mieux pour elles, quelque part. Ça, c'est pas forcément une violation des droits humains. On pourrait dire, bah, écoutez, bon, quand même, si elles ont envie de le faire, qu'elles aient le droit de le faire, parfait. Mais par contre, le problème, c'est que donc la séparation entre ces tâches, c'est aussi une séparation contractuelle. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des employés permanents qui sont grosso modo les cueilleurs et les chauffeurs, qui sont des hommes. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui travaillent dans les unités d'extraction, qui sont des femmes et qui sont quasiment toutes employées à la journée. Pendant 20 ans, 30 ans. Bon. Ensuite, le travail des enfants, constaté de manière systématique et endémique sur les plantations. Or, c'est un travail pénible, reconnu comme tel dans les conventions de l'Organisation internationale du travail. L'Indonésie est signataire, mais ils n'ont pas vraiment l'infrastructure en inspecteur du travail, etc., etc., pour mettre tout ça en œuvre. Bon, alors pourquoi ? C'est que bon, Villemar a affiché depuis longtemps qu'il voulait qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans leur plantation, mais en réalité, avec ces quotas dont je vous parlais, ces rendements au quotidien, ben, les parents, en fait, ils y vont, c'est toute la famille qui va. Ils amènent les gamins parce que sinon ils ne vont pas réussir à remplir leur quota. Donc les gamins, ils ne vont pas à l'école, etc., etc., etc. Ensuite, c'est l'exposition aux produits dangereux, manque quasiment systématique d'équipements de protection individuelle, exposition donc aux produits phytosanitaires et notamment utilisation d'un produit particulièrement sympathique qui s'appelle le paraquat, qui est interdit, mais complètement interdit, y compris en Indonésie, y compris dans les guidelines de Villemar, etc., etc. Mais enfin, bon, comme il n'y a pas trop de contrôle, il y a des fûts de paraquat, on met ça dans les bonbonnes, les gens vont, etc., sans équipement de protection. Donc, conséquences sur la santé, il y a toute une liste d'horreurs qui sont arrivées à des gens sur les plantations par suite de l'exposition au paraquat que je vous épargne, mais vous pouvez imaginer. Et tout ça aussi, évidemment, dans un contexte où la protection sociale est minimale, voire inexistante, vu le type de contrat qui est en vigueur dans les plantations. Voilà ce qu'on constate sur le terrain. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on voit ça et qu'on est devant cette complexe chaîne d'approvisionnement ? Eh bien, on interpelle Villemar en premier lieu, on interpelle les clients de Villemar parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, en principe, les entreprises sont responsables de leur chaîne d'approvisionnement en matière de droits humains, mais jusqu'au bout, quoi. C'est pas optionnel. Donc, de toute façon, c'est très mauvais pour l'image de marque. Donc, quand on veut faire bouger les choses, utiliser la question réputationnelle de ces grandes marques, Colgate ou autres, c'est un bon levier pour essayer de faire bouger les choses. On interpelle aussi un organisme qui s'appelle la RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Olive. Alors la RSPO, c'est la table ronde pour une huile de palme durable. Certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est un organisme très important dans l'économie de l'huile de palme. Il a été créé en 2004 sous l'impulsion notamment du WWF qui disait, bon, On va essayer de mettre un tout petit peu d'ordre dans cette jungle de la production d'huile de palme. Et c'est un organisme, une table ronde qui regroupe à la fois les clients, les acheteurs d'huile de palme, les producteurs d'huile de palme, le négociant comme Villemar, mais aussi certains États, des ONG et des organismes publics de contrôle. Malheureusement, c'est quand même un peu un machin. C'est un peu les Nations Unies de l'huile de palme. Ça n'avance pas très, 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 très vite. La question des droits du travail est tout à fait dans le champ de la RSPO. Il y a de très, très belles choses qui sont dites là-dessus. Mais en pratique, Villemar, tous ses clients, toutes les plantations qu'on a pu interviewer dans le cadre de ce travail sont membres de la RSPO. Il n'y a pas de problème. Et toute l'huile de palme qui sort de ces plantations est certifiée RSPO. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, en fait, sur ce genre de paramètres. Bon. Faut savoir que les critères de la RSPO sont en cours de reformulation. C'est un travail pluriannuel qui est d'une complexité extrême parce que tous ces acteurs mondiaux doivent se rencontrer dans des groupes de travail, etc. Ça prend un temps absolument infini pendant ce temps-là. Sur les plantations, ça ne bouge pas énormément. Donc, malgré des échanges de courriers du type « Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans votre huile de palme, il y a du travail des enfants ?»« Et est-ce que vous avez appliqué les normes des Nations Unies ?»« Est-ce que vous savez où vous approvisionnez en huile de palme ?» Avec des réponses plus ou moins floues des entreprises, là aussi, ça dépend, etc. Amnesty décide de publier en novembre 2016 son rapport et donc épingle un certain nombre d'entreprises, Villemar en tête, les grandes marques derrière, pour dire, écoutez, ça suffit comme ça. Ce sont des violations graves et systématiques des droits humains. Vous ne pouvez pas juste fermer les yeux là-dessus, faites quelque chose. Parallèlement à ça, un certain nombre de pétitions sont ouvertes. Les groupes d'Amnesty au niveau mondial se mettent à envoyer des lettres à toutes les entreprises concernées. Daniel ici en sait quelque chose. D'ailleurs, ces pétitions sont en grande partie toujours ouvertes sur le site d'Amnesty International. Vous trouverez des pétitions, bien que ça ait un petit peu bougé. Je vais en parler quand même. À côté de RSPO, il y a deux autres organismes importants qu'on peut peut-être, pour se former une image, considérer comme des sous-groupes de la RSPO. Il y en a un qui a un joli nom qui s'appelle le POIG. C'est le Palm Oil Innovation Group, donc le groupe d'innovation sur l'huile de palme. On pourrait dire, au niveau international, c'est un peu un groupe moteur qui est un petit peu en avance sur les questions aussi bien environnement que droit du travail, droits humains. Ils sont un petit peu plus moteurs et ils forment, disons, une phalange progressiste à l'intérieur de ce machin de la RSPO où il y a aussi des acteurs qui freinent vraiment des quatre fers pour ne rien changer. En France, il y a une organisation qui s'appelle l'Alliance française pour l'huile de palme que nous avons rencontrée en tant que section française, qui regroupe là en fait des acteurs du secteur alimentaire qui cherchent avec une bonne volonté qu'on peut toujours soupçonner, etc., mais enfin qui font des choses, qui essayent d'améliorer aussi bien sur leur propre chaîne d'approvisionnement que à l'intérieur de groupes comme le POIG ou le RSPO pour essayer de faire bouger les critères dans un sens intéressant. Alors, à côté de cette interpellation, Amnesty, et c'est le typique du format des rapports d'Amnesty, a formulé un certain nombre de recommandations. Ce sont des recommandations qui s'adressent aussi bien aux entreprises. Et alors là, rappelez-vous, je vous parlais un petit peu des méthodes pondue par l'OCDE, etc. Donc on fait référence en fait à une démarche en 5 étapes pour les entreprises. D'abord, il faut un minimum de traçabilité. Ça c'est extrêmement important. Ensuite, je suis toujours obligé d'aller regarder, pour ne pas me tromper dans ces 5 critères, il faut savoir identifier et évaluer les risques de violation des droits humains liés à l'exploitation du produit en question. Donc, en l'occurrence ici, huile de palme. Troisièmement, une fois muni de cette analyse des risques, il faut concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour protéger, respecter, réparer. Quatrièmement, il faut rendre compte, c'est-à-dire publier ce qu'on fait, lister ses fournisseurs, dire quels résultats on a obtenus grâce à la mise en œuvre de son stratégie, etc. C'est-à-dire avoir un minimum de transparence vis-à-vis du public pour que les gens sachent. Voilà. Et dernier point, c'est la question des voies de recours, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes pour que les gens qui ont subi des violations de droits humains puissent à un moment ou à un autre revenir et dire, écoutez, moi j'ai droit à une indemnisation parce qu'il s'est passé X, Y ou Z. Voilà. C'est donc des recommandations vis-à-vis des entreprises, des recommandations vis-à-vis des États. Alors les États, évidemment l'Indonésie en tête, et ces recommandations vis-à-vis de l'Indonésie, ce n'est pas tellement le cadre législatif qui sur le papier est vraiment parfait, il n'y a aucun problème, c'est plutôt la mise en œuvre, c'est-à-dire bah, écoutez, mettez quand même des inspecteurs du travail sur le coup, donnez-leur des moyens d'aller physiquement dans les plantations, d'avoir un minimum de liberté de parole sans se faire agresser ou sans disparaître par suite de mauvaises actions des gens qui des intérêts disons qui pourraient avoir qui pourraient prendre ombrage de ce qui est dit par ces inspecteurs. Engagez-vous plus dans les instances internationales, organisez des formations, laissez travailler un petit peu les syndicats, etc. etc., etc. Mais aussi les États des pays qui achètent essentiellement, bon, par exemple la France, hein, donc est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez imposer aux entreprises qui sont basées dans votre pays, etc. C'est là que des lois comme la loi devoir de vigilance en France sont très très importantes. Et aussi des recommandations vis-à-vis des organisations internationales comme la RSPO, POIG, Nations Unies, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Novembre 2016, maintenant ça fait un petit peu plus d'un an. Les informations que j'ai datent en fait du mois de décembre 2017. Comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs rounds de courriers. Ça a continué. C'est drôle. Dès que le rapport sort, qu'il obtient une certaine visibilité médiatique, tout à coup, le ton des échanges avec les entreprises change. Tout à coup, Vilmar ouvre les portes et dit « Ah ben oui, tiens, oui, c'est super important, on a envie de faire, on va embaucher une super entreprise d'audit qui va nous monter une stratégie, on va... » Bon, donc ça bouge de ce point de vue-là. On sait, parce que les gens qui sont plus proches du terrain nous le disent, et parce que Vilmar en fait 3 caisses, qu'ils ont effectivement commencé à faire bouger les choses. Par exemple, c'est la question des contrats de travail, donc beaucoup, beaucoup plus de contrats permanents. C'est la question des discriminations, c'est la question des équipements protecteurs individuels, c'est la question du contrôle de travail des enfants, c'est la réforme du système de rémunération, etc. Bon, ça c'est sur leur plantation. c'est dans le, ce qu'ils contrôlent directement. Ce qui est un petit peu plus difficile là pour l'instant, c'est lorsque eux ils sous-traitent. Est-ce que vraiment on arrive à ce que eux imposent à leurs fournisseurs, plantations, raffineries, etc., de faire le même genre de démarche jusqu'au bout de la chaîne. Alors, il y a quelques succès dans ce domaine-là. Il y a notamment deux entreprises qui sont des grosses entreprises, plantations plus raffineries, qui ont commencé à bouger. Une troisième, qui était dans la liste inspectée par Amnesty, Villemar a pris la décision d'arrêter d'acheter auprès d'eux, parce qu'ils ne bougeaient pas. Nous, on considère que tout ça, ce sont des points positifs. On est assez content de voir bouger la chose et ça nous incite à faire, en fait, à continuer à mettre la pression le plus possible parce qu'il y a des choses encore qui sont totalement insuffisantes. J'y ai fait allusion. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne quand ce n'est pas directement sous le contrôle, mais que ce sont des fournisseurs de Villemar? Ça, c'est une chose. Et l'autre aspect assez préoccupant, c'est toute la question des voies de recours, c'est-à-dire des gens qui ont subi des violations des droits humains au cours des dernières années, mais voire des dernières décennies. Où ils en sont? Est-ce qu'ils vont être reconnus? Est-ce qu'ils vont, par exemple, toucher des retraites? Est-ce que les problèmes de santé qui ont été provoqués par l'utilisation du paraquat il y a déjà des années vont être pris en compte, etc. Donc sur ce travail-là, on continue à interpeller les acteurs pour essayer de faire bouger les choses. Voilà, donc je suis tout à fait prêt à répondre à des questions dans la mesure où j'en suis capable. Sur ce sujet de l'huile de palme ou d'autres sujets qui pourraient vous intéresser par rapport à entreprises et droits humains.
Oui, bonjour. Moi, j'ai utilisé l'huile de palme parce qu'elle était recommandée par la vie claire il y a très longtemps. Et c'était un produit qui était absolument fantastique parce qu'il se gardait à température ambiante toute l'année. On faisait des tartes absolument fabuleuses avec. Et voilà, je ne comprends pas que ça soit utilisé ailleurs et pas pour cuisiner, on n'en trouve plus.
J'ai jamais utilisé l'huile de palme telle qu'elle. Comme je vous disais, c'est pas un sujet que je connais très bien, les vertus ou défauts de l'huile de palme comme produit. Mais en tant que consommateur, moi, ce que j'aimerais bien, c'est en plus d'utiliser un produit, c'est que quand j'achète un produit, surtout s'il est certifié par un organisme international, c'est qu'il ne soit pas finalement c'est qu'il ne contienne pas du travail des enfants, par exemple. Vraiment, ça me pose un problème éthique en tant que consommateur. Et encore, je dirais, à la limite, bon, il y a peut-être des gens qui ne trouvent pas ça scandaleux, le travail des enfants, mais qu'au moins on le sache, quoi. Qu'au moins on nous le dise. Il y a un autre exemple de ça qui concerne le cobalt. J'en ai touché un mot dans mon introduction. Le cobalt, on sait ou on ne sait pas. C'est un produit qui entre dans la composition obligatoirement des batteries ion-lithium. Les batteries ion-lithium, c'est les batteries rechargeables qui sont utilisées dans tous les téléphones portables et dans probablement tous les véhicules électriques, en tout cas jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Donc on est dans deux secteurs où la production explose absolument. Le cobalt, pour l'essentiel, est produit à partir de minerais qui vient de la République démocratique du Congo, qui est extrait dans des conditions absolument abominables dans l'est du Congo, où il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des enfants qui travaillent dans les mines parce qu'ils sont plus petits, donc on les fait entrer. Enfin, je veux dire, c'est pire que Zola, quoi, au 21e siècle. Mais on nous dit pas ça, quoi. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de porter ces choses à connaissance. Amnesty n'est pas du tout sur la question du boycott, par exemple. Je sais qu'il y a des acteurs qui appellent au boycott de l'huile de palme. Nous, là-dessus, On peut avoir des opinions diverses, mais c'est pas le fond du problème, je dirais, pour nous. Hein.
Vous avez beaucoup parlé du coup des acteurs dans l'huile de palme conventionnelle, et je voulais savoir si, en fait, là, vous en sous-entendez ou pas que dans la production d'huile de palme bio, il y a les mêmes problématiques de violation des droits humains. Enfin, est-ce que du coup, on se retrouve un petit peu dans les mêmes problématiques ou pas ?
Très franchement, je n'en sais rien. C'est-à-dire, c'était pas une catégorie dans le travail de recherche d'Amnesty. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, si j'achète bio, je sais pas. C'est une espèce d'intuition. Je me dis, les gens qui ont labellisé bio, ils ont forcément regardé quand même les conditions éthiques dans lesquelles les choses ont été produites. Bon, voilà. Moi, je crois que c'est une question à poser. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude d'acheter un produit, en vous appuyant, par exemple, sur les travaux d'Amnesty, qui sont connus, qui sont un petit peu, je dirais même reconnus, fiables, quoi. Enfin, c'est pas des choses qui sont contestées. D'ailleurs, aucun des acteurs à qui on s'est adressé, enfin, s'il y a eu des phases de déni un peu du style, ah, mais non, mais nous, il n'y a pas de travail des enfants sur nos plantations, sauf qu'on leur a dit, ben si, regardez, ah oui. Non, mais ça c'est un cas particulier. Enfin bon, bref. Amnesty est relativement fiable. Eh ben, il faut utiliser ces recherches et interpeller les marques et interpeller les labellisateurs bio et leur dire, ben écoutez, ok, c'est formidable parce que c'est vrai que c'est formidable la labellisation bio, c'est génial. Mais enfin, est-ce que par rapport à telle question, vous savez répondre? Normalement, je dirais qu'ils ont certainement une longueur d'avance sur le secteur en général, c'est la question de la traçabilité. C'est-à-dire que normalement, cette première étape qui est absolument essentielle, parce que sinon on sait rien sur le produit, ils l'ont faite, parce que sinon ils ne peuvent pas certifier bio. Donc, à partir de là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et il y a de fortes chances, par exemple, qu'ils travaillent sur un nombre très, très limité de fournisseurs. Bien identifiés, sur des plantations bien identifiées, dans des endroits connus, avec des procédures de visite, etc. Donc, le coût marginal du contrôle des conditions de travail me paraît pas énorme.
Est-ce que vous connaissez des noms de marques ou de fournisseurs sur lesquels on peut compter, qui ont une politique éthique par rapport aux droits humains? Parce que de notre côté, il faut savoir que la bio, c'est pas un critère absolu. Les grandes surfaces utilisent la bio dont on ne connaît pas forcément l'origine, quoi.
Je ne pourrais pas donner une estampille Amnesty 100% droits humains à une marque quelconque, surtout dans le domaine de l'huile de palme. En revanche, comme je vous ai dit, ce qu'on voit, c'est que ça bouge. Et tous ces mouvements sont intéressants. Je vais revenir un petit peu sur la question du cobalt, par exemple, parce qu'on avait interpellé tous les fabricants de smartphones, de téléphones intelligents à ce propos, donc Samsung, iPhone et compagnie. Et là, c'était vraiment intéressant parce que les entreprises, bon, première étape, déni total. Mais non, mais pas du tout. Nous, on a des entreprises avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On fait des trucs super et tout. Et puis finalement, obligé de se confronter à la question, ils se rendent compte que ça va pas. Et là, ça bouge ou ça ne bouge pas. Or, on a vu, par exemple, iPhone, Apple, on a vu iPhone bouger en 2 ans de manière mais vraiment radicale sur cette question du cobalt. Et faire des choses, dépenser de l'argent, mettre en place des systèmes de contrôle, fournir des investissements locaux dans les écoles et les trucs pour essayer d'améliorer la situation. Donc, malheureusement, c'est pas un domaine du 100%. Hein. Et c'est plutôt un domaine de lutte progressive et d'amélioration progressive dans un environnement parfois difficile.
Merci. Concernant les smartphones précisément, il me semble qu'on peut citer une entreprise dont le produit n'incorpore pas de matériaux rares provenant de zones en conflit et qui est également respectueuse de sa responsabilité autant vis-à-vis de son personnel que concernant le recyclage de ses produits. C'est pas très connu, hein, mais c'est le Fairphone qui vend des smartphones éthiques, entre guillemets, à peu près à 100%, semble-t-il.
Non, vous avez raison. Et c'est plutôt l'exception qui confirme la règle dans les secteurs. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, je veux un Fairphone, mais c'est impossible. Hein, ils n'arrivent pas à produire assez. Donc, il faut s'inscrire. Il y a une espèce de loterie Internet là, pour avoir le droit d'avoir un Fairphone dans 2 ou 3 ans, etc. Ça prouve que c'est quand même vraiment difficile à faire. Et donc, quand on s'est intéressé à la batterie de véhicules électriques, on s'est posé la question aussi, est-ce que ça pourrait inciter des gens à faire des fers batteries de véhicules électriques? Mais ça a l'air encore plus compliqué. Hein. Je pense que c'est la taille. Ça implique des chaînes de production industrielle d'une autre dimension. Et là, les acteurs sont moins nombreux tout à coup. Hein.
C'est pas tout à fait une question, c'est une information. Il y a un film qui existe sur YouTube qui s'appelle La fiebre de la Palma, qui a été fait par 2 jeunes dans le cadre du service civique. Et ils sont allés en Équateur et ils ont fait une sorte de documentaire qui dure à peu près 1 heure, qui est traduit de l'espagnol en français par eux. Et ils ont interrogé des paysans, ils ont interrogé des responsables, des embaucheurs, tout ça. Enfin, je ne peux pas vous dire exactement qui ils ont interrogé. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit en effet que les paysans, ils sont contraints de laisser leurs terres parce qu'aussi bien ils se trouvent au milieu de ces champs de palmes et qu'en fait, on leur pollue leur... ils balancent par hélicoptère des produits. Alors, quand les paysans veulent changer leur culture, par exemple, il y en a qui ont fait des abeilles, l'apiculture, ils sont retrouvés avec toutes les ruches mortes. Enfin bon, ils sont contraints d'aller travailler là ou de céder leur... ils ne peuvent pas se payer d'avocat. Enfin bref, ils ont beaucoup de problèmes. Et dans ce film, on voit bien les problématiques des paysans. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, il est fait par Gabriel Nera et Antoine Cusset. Ça s'appelle La fiebre de la Palma en Équateur. Bon, ils ont sorti ce petit documentaire il y a 3-4 ans.
Merci, je ne connaissais pas ce film, mais ça me fait penser à une chose que vous avez dit sur l'expérience en fait des paysans, hein. C'est une chose que nous a raconté quand on a rencontré l'Alliance française pour une huile de palme durable. Donc certains acteurs essayent de faire finalement des plantations modèles, hein. Et ils arrivent à contrôler sur leur plantation à peu près ce qui se passe. Simplement le problème c'est que souvent juste autour de la plantation modèle, vous avez tout un tas de producteurs qui, de manière plus ou moins spontanée, peut-être en défrichant eux-mêmes ou peut-être en exploitant juste des palmiers dans la forêt, vont venir apporter des fruits aux unités d'extraction. Et les unités d'extraction, économiquement, elles ont du mal à ne pas accepter les fruits de quelque provenance que ça vienne. Donc, en fait, on se trouve dans cette situation un peu délicate où si on veut être sûr de respecter un certain nombre de critères, on doit refuser la production qui vient de petits producteurs qui sont peut-être des gens formidables mais peut-être qui font travailler des enfants, on sait rien en fait sur ça. Et c'est pas facile pour l'exploitant, ni économiquement ni humainement. Petite parenthèse quand même, l'huile de palme, 6 millions d'emplois dans le monde, dont probablement 3 millions en Indonésie. C'est un enjeu énorme pour le pays, ce qui se passe sur ces plantations. C'est clair. En même temps, ce qu'on n'a jamais pu obtenir comme info en interrogeant les gens, les chercheurs, le CIRAD, tous les gens qui s'y connaissent, c'est dans le coût de l'huile de palme, qu'est-ce que représente le travail des gens sur les plantations? Et je crois que la réponse, ça doit être pas grand-chose, parce que sinon on le saurait, quoi. Donc, moi j'ai l'impression que si on doublait ce coût, ça n'aurait strictement aucun impact sur le coût du produit final, quoi.
J'aimerais avoir une idée de la perception d'Amnesty par les acteurs économiques. Et aussi, quel est le poids des pétitions, comment elles sont utilisées par rapport au simple rapport.
Les deux questions sont évidemment liées. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai été interpellé par Amnesty. Je connaissais très bien cette organisation. Ça m'a mis dans une situation un peu étrange. Mais je peux vous dire qu'autour de moi, les gens, ils avaient une peur bleue. Moi, j'essayais de leur dire, mais non, il ne faut pas avoir peur. C'est des gens très, très constructifs, Amnesty. Mais les gens avaient très, très peur. Parce que Amnesty, c'est une organisation mondiale qui a du poids médiatique. On a accès, on a vraiment accès aux médias. Donc, quand on épingle une société, ça fait mal. Je dis pas que ça modifie les résultats en bourse, mais ça affecte l'image, c'est clair. Donc, ça fait bouger les entreprises. C'est tout à fait évident. Je vous ai raconté l'histoire d'Apple. C'est tout à fait évident sur l'huile de palme avec Vilma. Il y a une histoire que je peux vous raconter là, en ce moment, puisque sur le cobalt, il y a eu une liste de fabricants automobiles qui a été faite avec toute une série de critères et de dialogues entre Amnesty et ses fabricants. Et un de ceux qui est arrivé en dernier, c'est Renault. Donc Amnesty International a chargé la section française d'interpeller directement Renault et d'essayer de rencontrer Renault pour demander des comptes et demander quelles étaient leurs intentions finalement. Ils ont été très rapides à nous répondre, à déployer un aréopage assez important de la hiérarchie de Renault pour rencontrer la hiérarchie d'Amnesty. Ça a été une réunion, vous savez, comme quand on qualifie, nous avons eu des échanges très constructifs, beaucoup de respect mutuel, je dirais, dans le dialogue. Mais le résultat, c'est que 15 jours après, quand même, Renault a publié sur son site web non seulement la liste de ses fournisseurs, mais un certain nombre d'engagements, alors que un mois avant, il nous disait « Ah non, mais nous, à Renault, on n'a pas besoin de faire ça, on ne savait pas. Comme s'ils ignoraient, comme si une entreprise de cette taille pouvait ignorer les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains. Enfin, des discours de déni complet. Donc, finalement, en un mois, 6 semaines, la situation s'est complètement retournée. Bon, alors maintenant, il faut du temps pour que les choses bougent sur le terrain. Ça, c'est pour répondre à la première partie de ta question, Daniel. L'autre, c'est la question des pétitions par rapport au rapport. Je dirais que c'est complètement complémentaire. C'est-à-dire que les rapports, c'est ce qui déclenche l'intérêt médiatique. Le rapport, c'est accompagné par des communiqués de presse. C'est un moment important. Le journaliste peut aller se référer. Il se rend compte que c'est sérieux. Il trouve des chiffres. Il écrit son article. C'est repris. Ta 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 ta. Ça crée une petite ébullition qui dure pas forcément très très longtemps. Les pétitions, c'est un petit peu c'est un petit peu le coup franc derrière, quoi. C'est le suivi. Et là, c'est en jet continu, la pression qui baisse pas, quoi. Parce que des rapports, on peut pas en pondre non plus tout le temps. Il faut savoir que sur toute cette problématique entreprise et droits humains, l'équipe de recherche qui est à Londres, c'est 6 personnes. Amnesty étant financée uniquement par vos dons, puisqu'on ne reçoit pas d'argent des États, notamment.
Je voulais savoir plus globalement, est-ce que la situation s'améliore dans le monde, quoi, dans les pays un petit peu en difficulté au niveau des droits humains? Est-ce que la situation s'améliore globalement, quoi, je veux dire?
Alors, bon, moi je suis un optimiste, donc j'ai vraiment... D'ailleurs, sinon, je ne serais pas là. Moi, je suis bénévole, donc je crois beaucoup à cette idée de progrès. Il faut être super modeste, hein. Le rapport d'Amnesty annuel, c'est un truc qui sort et qui est organisé par pays tous les ans. Vous avez 2 ou 3 pages par pays. Je vous encourage à aller regarder ça sur Internet s'il y a un pays qui vous intéresse en particulier. Ils y sont tous, hein. Pas seulement les pays pauvres. Alors, la notion de progrès, c'est parfois un peu difficile à mesurer, j'ai envie de dire. Malgré tout, il y a des pratiques qui me paraissent de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à cacher. Et ça, c'est bien, parce que la transparence joue un rôle extrêmement important dans cette dynamique-là. Sur la question du travail des enfants, par exemple, c'est assez flagrant. Vous dites à l'espace médiatique, il y a des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt au Congo. C'est repris, mais immédiatement par beaucoup d'organes de presse. Espèce de point de sensibilité, de point de friction. Et ça fait bouger les lignes. Après, même en France... Il y a bien des problèmes qui se posent, qui n'ont rien à voir avec le travail des enfants, mais qui font vraiment se poser des questions sur l'évolution des droits humains sur le plan global. Je crois qu'on vit actuellement une crise très très grave du multilatéralisme. On vit une crise extrêmement grave de la crédibilité de l'architecture internationale qui a été mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Déclaration universelle des droits humains semble s'éloigner petit à petit des préoccupations des grands de ce monde. Ça peut ressembler parfois à une attaque en règle sur certains droits fondamentaux, comme le droit des réfugiés. Et ça, c'est absolument terrifiant. Voilà, donc c'est un peu nuancé ce que je peux en dire.
Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle était la part utile... Enfin, je suppose que vous faites de la prévention, et peut-être au niveau des écoles. Je voulais savoir, voilà, un petit peu quel travail il y avait par rapport à ça. Je pensais à ça parce que moi, j'ai une fille de 10 ans qui s'est sentie concernée par l'huile de palme... Ça a commencé par le Nutella, et puis quand elle a pleuré pour ce qu'on faisait aux orang-outans, etc. Mais je me dis que cette notion du travail des enfants, ben, j'avoue que j'en avais pas entendu parler jusque-là, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et que je me dis qu'au niveau des écoles et des enfants, ça pourrait les toucher encore davantage que la cause animale qui touche les enfants. Mais je pense que les parents seraient un petit peu plus... sensibiliser.
Il y a une activité éducation aux droits humains qui est animée par Amnesty avec les moyens qu'on a, hein. Donc c'est la préparation d'un certain nombre de matériels éducatifs qui sont à disposition des écoles, qui sont pris ou pas repris. Enfin, quand je dis école, c'est des petits jusqu'aux universités, hein. Il y a aussi des interventions. Moi-même, je suis allé, j'ai fait des interventions en lycée, en école de commerce, etc., sur ces sujets un petit peu pointus, parfois. Mais mes enfants à moi, ils savent depuis longtemps que je m'intéresse à ces questions. Et je me suis toujours efforcé de pas trop culpabiliser, quoi, parce que oh puis. Je sais pas, moi aussi, hein, sans doute, je dois en manger de l'huile de palme, j'en sais rien. Après tout, y a un moment, la vie c'est comme ça. Je me souviens la première fois, en fait, quand je me suis engagé dans Amnesty, j'étais en entretien avec une personne, parce qu'il y a des groupes locaux. D'ailleurs, combien il y a de groupes locaux à Lyon ? 5 groupes locaux à Lyon, pour donner une idée à peu près, quoi. Et la personne me dit, il y a plein de raisons de s'engager dans Amnesty International, mais la raison la moins bonne de toutes, c'est la culpabilité. Et j'ai toujours gardé ça en tête. C'est triste si les enfants pleurent, parce que je crois qu'au contraire, il y a des trucs à faire, quoi. Ça répond pas... Oui. Non, bien sûr.
Je peux juste apporter un peu d'informations locales, mais globales aussi. À l'horizon des 5 prochaines années, l'éducation aux droits humains est une priorité du mouvement, clairement. On a actuellement une campagne qui s'appelle le I Welcome, entre autres pour demander à ce que les États dans l'accueil des réfugiés prennent leurs responsabilités à proportion de ce qu'ils peuvent accueillir du fait de leur état économique, etc. Et cette campagne-là, elle est essentiellement basée sur des actions éducation aux droits humains. Il y a une thématique sur laquelle on a travaillé qui sont les enfants soldats. C'est-à-dire qu'une des thématiques fondamentales depuis toujours d'Amnesty, c'était enfants soldats et aussi enfants détenus. Parce qu'il y a pas mal des pays où il y a des enfants qui sont en détention, parfois dans des conditions équivalentes à celles d'adultes, donc assez catastrophiques. Et effectivement, ça fait partie d'un travail de fond qui demande du temps, des militants. Donc si vous avez envie de vous engager, Amnesty vous offrira le support pour faire ça. Donc on a vraiment besoin de gens qui ont envie de s'engager pour l'avenir, et il faut s'engager auprès des collégiens, des lycéens et des étudiants, c'est sûr.